RFI 5h30 à Paris et à Pretoria.
Nemo en piste.
Et à la une, ces tensions toujours grandissantes entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, Washington qui s'apprête à accueillir un premier groupe d'Afrikaners sur son sol demain. Donald Trump estime qu'ils sont persécutés. C'est faux, assure Pretoria. Vous entendrez le chef de la diplomatie sud-africaine dans un instant. La liberté de la presse est-elle en danger à Madagascar? Oui, répondent les professionnels du secteur qui s'inquiètent du manque de moyens et de la prolifération des fausses informations sur les réseaux sociaux. Une crainte illustrée par le recul de la grande île au classement annuel publiée par Reporters sans frontières. Elle devait être la première femme africaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise l'année prochaine. Koyo Kuo est décédée à l'âge de 58 ans. La Suisso-Camerounaise était depuis 2019 directrice du plus grand musée d'art contemporain d'Afrique au Cap. Et puis, un 18e succès en 18 combats, Souleymane Sissoko n'est plus qu'à une marche du titre mondial. Le boxeur français né à Dakar était à domicile, ou presque, hier à Malabo dans une salle acquise à sa cause. Nouvelle intensification cette semaine des relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, rien ne va plus entre Pretoria et Washington. Le président américain a notamment plusieurs fois évoqué le cas des Afrikaners, ces descendants de premiers colons européens qu'il estime persécutés. Jeudi, des médias américains ont dévoilé que l'administration américaine prévoyait dès demain lundi d'accueillir un premier groupe de Sud-Africains blancs aux États-Unis. Vendredi, les autorités sud-africaines ont fait part de leurs préoccupations et une rencontre a eu lieu entre le vice-ministre Alvin Boats et le vice-secrétaire d'État américain Christopher Lando. Échange cordial selon Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères, qui a tenu à clarifier la position de Pretoria.
Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont toujours été dynamiques et évolutives, avec évidemment beaucoup plus de défis depuis l'élection du président Trump et surtout au vu du nombre de décrets exécutifs basés sur aucun fait ni vérité. En Afrique du Sud, les projets de loi sur l'expropriation sont des projets de loi qui visent à corriger les déséquilibres du passé afin de garantir une distribution équitable de toutes les ressources de notre pays. Cela se fait dans le respect de la Constitution, qui offre suffisamment de garanties contre tout usage arbitraire du pouvoir par l'exécutif ou par l'État. Donc c'est dans ce contexte que nous continuons à nous engager avec Washington sur un certain nombre de questions, car les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis restent importantes. Washington est un partenaire commercial stratégique pour nous, le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Il reste des défis à relever, mais nous continuons à nous engager au niveau diplomatique.
Le chef de la diplomatie sud-africaine, Ronald Lamola, joint par Zina Tansrode de la rédaction d'RFI en anglais. Pretoria avait affirmé vendredi également que les allégations de discrimination envers les Afrikaners n'étaient pas fondées et que le gouvernement n'empêcherait pas les Sud-Africains voulant quitter le pays de le faire. L'Afrique du Sud encore, et ce nouveau rebondissement dans l'affaire Omotoso, Tom de son prénom, ce pasteur télévangéliste nigérien, de nouveau arrêté tôt hier matin à la sortie d'une messe. Bonjour Vincent Dublanche.
Bonjour.
Acquitté le mois dernier dans une affaire de viol de grande ampleur, Tom Omotoso est désormais dans le collimateur de la justice pour des questions d'immigration.
Oui, le pasteur défrait la chronique depuis plusieurs années en Afrique du Sud. Il a d'abord été arrêté en 2017, accusé d'avoir kidnappé et abusé plus de 30 jeunes femmes appartenant à son église, dont des mineurs. Son procès s'est tenu ces dernières semaines. C'était le premier grand procès pour viol à être diffusé en direct. Il a capté l'attention du pays. Les violences sexuelles y sont un problème récurrent. L'une des plaignantes est d'ailleurs devenue une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes en Afrique du Sud. Début avril dernier, le pasteur Omotoso ainsi que ses deux co-accusés ont été acquittés de l'ensemble des 32 chefs d'accusation, viol, exploitation sexuelle, traite d'êtres humains, entre autres. La juge a sévèrement critiqué à cette occasion le parquet qui, selon elle, a failli à apporter les preuves nécessaires, alors même qu'elle estimait que la version du pasteur nigérian était peu crédible. Quoi qu'il en soit, Tom Omotoso, dans le même temps, a été déclaré persona non grata par le gouvernement sud-africain, alors même qu'il était encore en détention provisoire. Il était donc censé depuis être expulsé à l'issue du procès. Il a fait appel, son appel a été rejeté. Il doit encore comparaître demain devant la justice sud-africaine.
Merci Vincent Dublange. Un très lourd bilan en République démocratique du Congo après des inondations dans le village de Kasaba en territoire Fizi dans la province du Sud Kivu. Un village situé au bord du lac Tanganyika. Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi. Un bilan encore imprécis et provisoire puisque les recherches et les fouilles se poursuivent, dit ce matin sur RFI l'administrateur du territoire. Vous en lisez davantage sur notre site internet rfi.fr. Comme chaque année, l'ONG Reporters sans frontières a publié la semaine dernière son classement mondial sur la liberté de la presse. Et parmi les pays en recul sur le continent africain, on retrouve Madagascar, 113e sur les 180 pays que comprend le classement. Plusieurs opposants y voient ainsi un déclin démocratique alors que le président Andry Rajoel semble vouloir mettre l'accent sur la lutte contre la désinformation en ligne. La profession, de son côté, dénonce une dégradation des conditions de travail des journalistes ainsi qu'une multiplication des fausses informations. RFI Tana, Guillaume Fabry.
Une grande précarité économique. Pour la présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar, Monica Rassolo-Harrison, c'est d'abord le manque de moyens des reporters malgaches qui explique le recul de la liberté de la presse sur la grande île.
Les journalistes ont tendance à dépendre de frais de déplacement payés par les promoteurs d'événements ou les hommes politiques au prix de la qualité de l'information. Cette pratique n'est pas bonne, je pense, hein, pour le journalisme. Mais c'est la pression économique qui les force un peu à agir comme ça.
Cet affaiblissement de la liberté de la presse est d'autant plus inquiétant que les fausses informations se multiplient sur les réseaux sociaux, selon Monica Rassolo-Harrison.
Ici à Madagascar, le nombre croissant d'utilisateurs de Facebook accroît aussi la désinformation, puisque les gens ont tendance à considérer comme vraies les informations qui circulent sur les Facebook. Les gens ne savent plus quelle est vraiment l'information réelle.
L'ONG Ilan Tsera, observatoire des médias et de la communication à Madagascar, préconise de soutenir davantage les radios communautaires afin de défendre la liberté de la presse et le droit à l'information partout sur la grande île, y compris dans les zones rurales. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Au Mali, un acteur majeur du mouvement pro-démocratie agressé au couteau dans la nuit de vendredi à samedi, Cheikh Oumar Doumbia a échappé à ses assaillants. Agression qui survient après une série d'enlèvements ou tentatives d'enlèvements ces derniers jours à Bamako. David Baché vous en parle dans le journal de 6h, heure de Paris. On a appris hier le décès de Koyo Kouo, 58 ans et figure incontournable de la scène artistique africaine. La Suisso-Camerounaise devait même être la prochaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise. Sa vie et son œuvre avec Lisa Giroldini.
Elle devait être la première femme africaine nommée à ce poste par l'institution italienne, référence mondiale en matière d'art contemporain. Née à Douala, au Cameroun, Koyo Kouo a grandi en Suisse avant de s'installer à Dakar en 1996. C'est dans la capitale sénégalaise qu'elle a débuté sa carrière de curatrice indépendante. C'est ici aussi qu'elle a fondé le centre d'art et de réflexion Raw Material Company, compagnie de la matière première. Koyo Kouo a participé à des événements artistiques majeurs comme la Biennale de Dakar et les rencontres africaines de la photographie de Bamako, avant de prendre en 2019 la tête du Zeitz Moka au Cap, le plus grand musée d'art contemporain d'Afrique. Spécialiste des artistes africains et de la diaspora, elle a mis en lumière des figures comme Abdoulaye Konaté, Tracy Rose ou encore Marie Evans. Personnalité très respectée, engagée, panafricaniste, Koyo Kouo a défendu toute sa vie l'influence mondiale des cultures africaines dans le paysage artistique contemporain.
Lisa Giroldini, son décès laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain, indiquent les organisateurs de la Biennale de Venise. La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, a elle exprimé son profond chagrin. En Côte d'Ivoire, c'est hier samedi que le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, a refermé ses portes. C'était la 15e édition. Le parc des expositions de Port-Boué a vibré au rythme des livres cette semaine, mais aussi des lectures et des débats. Le rendez-vous célèbre chaque année les littératures du monde entier et met en lumière les talents nationaux, mais aussi du continent africain. Abdelaziz Diallo est allé y faire un tour pour RFI. Reportage.
Difficile de se frayer un chemin dans les allées bondées du SILA. Petits et grands se pressent autour des stands à la recherche d'un roman, d'un recueil de poésie ou d'une bande dessinée à emporter. un engouement qui ravit la romancière Mawa S. Bakayoko.
Cette fréquentation est en hausse. Ça veut dire que quelque part, le message d'éducation de mener les Ivoiriens à la lecture porte ses fruits.
Le SILA, c'est aussi une opportunité économique pour les auteurs. Mais pour les jeunes plumes, la partie est loin d'être gagnée. Fulgence Nchou, auteur depuis 2 ans, n'a vendu qu'une 20aine de livres en 5 jours.
Ces personnes ont des idées déjà arrêtées sur certains livres. Des auteurs qu'ils connaissent souvent dans les écoles, c'est ce qu'ils viennent chercher. Or, ils ne cherchent pas à découvrir d'autres livres. C'est ça un peu qui crée le problème.
L'accès aux livres reste aussi freiné par son prix. Le coût du papier pèse lourd, regrette Anzata Ouattara, écrivaine et éditrice.
On aimerait pouvoir faire des livres abordables pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais le prix du papier fait que les imprimeurs sont vraiment contraint de faire des prix très élevés et c'est difficile.
Pour promouvoir la lecture, notamment auprès des plus jeunes, le ministère de la Culture et de la Francophonie mise entre autres sur les centres de lecture et d'action culturelle. Il en existe 19 à travers le pays et les livres y sont accessibles gratuitement. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Allez, du sport pour refermer ce journal. Que ce fut dur hier soir à Malabo pour Souleymane Sissoko. Mais le boxeur français né à Dakar au Sénégal l'a bel et bien fait. Il a remporté à 33 ans sa demi-finale mondiale face au Lituanien Egidijus Kavalioskas chez les moins de 67 kilos. Le combat le plus important de sa carrière et pour cause, le voilà désormais crédible pour le titre mondial WBC. Une soirée de folie pour lui dans la capitale équato-guinéenne avec un début de combat très compliqué, je vous le disais, mais qui a fini en apothéose. Retour sur ce moment avec Sofiane Amazian.
Souleymane Sissoko, en mode diesel, a joué avec le feu. Dans une salle complètement acquise à sa cause du côté de Malabo, le français est dépassé par la puissance de son adversaire Egidijus Kavalioskas. Moins mobile mais plus offensif, le lituanien marque les esprits lors de la deuxième reprise, un crochet du droit qui couche Sissoko compté une première fois. Une alerte terrible pour le médaillé de bronze lors des Jeux de Rio en 2016 qui chute de nouveau au milieu du combat dans le 5e round. Cette fois, l'uppercut de Kavalioskas a failli faire basculer le français de l'autre côté des cordes. Un début de combat inquiétant, même si l'écart entre les deux boxeurs n'est pas si important. C'est physiquement que le natif de Dakar prend le dessus. Les 7 reprises qui suivent sont une démonstration stylistique. Déplacement rapide, esquive bien sentie et coup précis. Sissoko récite sa boxe, tandis que Kavalioskas fatigue et baisse sa garde à 36 ans. Le lituanien, qui a déjà combattu 2 fois pour la ceinture, ne peut tenir le rythme et s'incline logiquement par décision unanime. 18 combats, 18 victoires pour l'invaincu Sissoko. La récompense, une place assurée prochainement pour tenter de réaliser son rêve, devenir champion du monde.
Le récit de Sofiane Amazian et les sports ce matin, c'est avec Baptiste Leduc, Premier Journal. Dans une heure, il est 5h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
Allez, dans la petite vingtaine de minutes qu'il nous reste, on fait le tour de 2 expositions. La première à Abidjan, c'est dans un instant, vous l'entendrez. La seconde à Paris est la découverte ou redécouverte de l'univers du cinéaste américain Wes Anderson. Le dimanche, vous en avez l'habitude, Denise Epoté est avec nous pour nous présenter ses têtes d'affiche aujourd'hui, un Sierra Leone et une Kenyane. Et puis on revient dans le livre inter sur le parcours européen de Jacques Delors. Merci d'être à l'écoute des RFI et bienvenue. Le reportage du jour en Côte d'Ivoire, une exposition intitulée « Inspiration Kourouma » rend hommage au grand écrivain Amadou Kourouma, décédé il y a un peu plus de 20 ans, un héritage littéraire célébré à travers les créations d'artistes contemporains. On y croise des tableaux, des sculptures et même des bandes dessinées. C'est au centre d'art historique du plateau à la Rotonde que ça se passe. Et Marine Janin s'y est rendue pour RFI.
Les visiteurs sont accueillis dans la Rotonde par les yeux pénétrants d'Amadou Kourouma, un grand portrait de James Kokobi en noir et blanc qui représente l'écrivain, la tête posée sur sa main, fixant le spectateur du regard.
Dans le creux de la main, je crois qu'il disait, dans le creux de la main, on se repose et on apprend beaucoup. C'est un grand personnage pour moi. Kourouma fait partie du patrimoine culturel des Côte d'Ivoire. Quand vous approchez le portrait, là, il n'y a pas de peinture, c'est juste gratté, sur du papier noir, au couteau. Donc c'est un travail archéologique que j'ai fait.
En plus des photos d'archives, des coupures de journaux et d'extraits de ses textes, l'exposition met en scène une 15aine d'œuvres présentées par un casting prestigieux, où figurent notamment les peintres Aboudia et Yanzi ou le sculpteur Salif Diabagaté. Les participants ont reçu des extraits de livres de Kourouma et ont été invités à s'en inspirer pour créer leurs propres œuvres. Pascal Conan, artiste plasticien, signe ainsi la toile Les couleurs des indépendances, en référence au premier roman de Kuruma, Les soleils des indépendances.
Ce livre fait quand même une lecture des moments et des temps coloniaux. Et donc dans la toile, il y a une grande répartition du bleu, du blanc et du rouge pour montrer la domination du pays colonisateur. Et puis ensuite, le jaune qui symbolise le soleil d'Afrique vient pour dire qu'en Afrique, il y a eu des gens qui sont battus. Nous, on a essayé quand même de résumer cela en images parce qu'on estime qu'une image vaut 1000 mots.
Il peut sembler paradoxal de rendre hommage à un écrivain avec une exposition d'art plastique, mais le directeur de la Rotonde, Yacouba Konaté, dit croire qu'aucune discipline ne peut vivre en autarcie.
Amadou Kourouma, c'est un ami. J'ai vu l'immense travail qu'il mettait pour construire ces textes, les produire, les peaufiner, vraiment, c'est un orfèvre. Donc, je me suis promis de faire un événement sur lui, puisque je suis, moi, une universitaire qui considère que les arts visuels ont un impact, une efficacité de communication plus fort que la littérature au sens ordinaire du terme.
Une initiative saluée par la veuve de l'écrivain Christiane Kuruma, qui se réjouit de voir son œuvre toujours célébrée 22 ans après sa mort.
Je vis avec lui encore jour et nuit. Je lis encore tout ce qu'on a pu écrire sur lui. On m'en parle beaucoup. Pour moi, il est toujours là. Tout ce que je vois ici, toutes ces photos, je les connais par cœur.
L'exposition Inspiration Kuruma restera visible à la Rotonde jusqu'au 21 mai. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Reportage à écouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Les principaux titres de ce dimanche 11 mai 2025. Vladimir Poutine propose des négociations directes et sans conditions préalables avec l'Ukraine. Déclaration dans la soirée de samedi du président russe. Il propose aux Ukrainiens que les délégations se retrouvent à Istanbul en Turquie jeudi prochain. Pas de réaction à l'heure où l'on parle de Kiev ou de ses alliés occidentaux qui ont eux-mêmes mis sur la table un cessez-le-feu de 30 jours et des menaces de sanctions massives. Vous entendez Vladimir Poutine dans le prochain journal dans un petit quart d'heure. L'Inde et le Pakistan s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur hier dans la journée. La tension demeure donc forte entre les deux pays. Depuis 5 jours, ils ont chacun multiplié les frappes à l'aide de missiles et de drones. Les États-Unis et l'Iran tiennent ce dimanche une nouvelle série de pourparlers sur le programme nucléaire de Téhéran. Elles interviennent quelques jours avant la visite du président américain au Moyen-Orient, des discussions qui se déroulent à Oman. Et puis les sports et le football en France. Angers assure son maintien en Ligue 1. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco seront directement qualifiés en Ligue des Champions. La quatrième place, synonyme de barrage, se jouera entre Nice, Lille et Strasbourg. À noter qu'en Espagne, c'est jour de Classico. FC Barcelone, Real Madrid, coup d'envoi à 14h15, temps universel. Je vous le disais, le dimanche, c'est le jour des têtes d'affiche de Denise Epoté. Elle est cette semaine au micro de Mathis Limano.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Mathis Limano.
Votre première tête d'affiche est un jeune écologiste originaire de Sierra Leone. À 17 ans, Alhaji Siraj Ba a fondé Ruxal Trading, une alternative au combustible à base de bois pour lutter contre la déforestation à l'origine des coulées de boue qui ont endeuillé la capitale du pays.
Seul rescapé d'une coulée de boue qui a décimé en 2017 des milliers de personnes à Freetown, dont 7 membres de sa famille adoptive, Alhaji Siraj Ba décide de comprendre les raisons environnementales qui conduisent à de tels drames. Avec ses 20 dollars d'économie, il lance Ruxal Trading, une entreprise de fabrication de combustible à base de déchets de noix de coco qui conjugue innovation et durabilité. En luttant contre la déforestation et contribuant à une meilleure gestion des déchets dans la capitale. C'est sur YouTube que le jeune entrepreneur a appris à produire des briquettes sans fumée et qui se consument durant 4 heures. Auprès des agriculteurs, Alhaji Siraj Ba collecte des coques de noix de coco, des déchets de canne à sucre, de riz et de palmistes qui broient et qui lient avec de l'amidon. L'entreprise produit également des sacs en papier biodégradables à base de feuilles de bananier pour lutter contre la pollution des sachets en plastique. La production des 25 000 sacs écologiques et des 12 000 tonnes de briquettes ont permis de sauver 15 000 arbres. Mais elle a surtout protégé la santé de millions de femmes qui n'ont pas inhalé de fumée toxique en cuisinant au feu de bois.
Votre seconde tête d'affiche est, elle, originaire du Kenya. Leslie Mbogo possède une vaste expérience en ingénierie et en gestion de produits et services technologiques de pointe. Elle est titulaire d'un MBA obtenu à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'un master en informatique du Rensselaer Polytechnic Institute. Gobega, la plateforme qu'elle a cofondée, renforce l'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement des services publics non canalisés.
De retour au Kenya, Leslie Mbogo et son associé Peter Ndiangui ont été frappés par le fait que l'accès aux services publics de base, le gaz et l'eau, était non seulement peu pratique, mais souvent dangereux. Ils ont vu des familles transporter de lourdes bouteilles de gaz et des bidons d'eau en prenant des risques inutiles. Gobega est donc né avec une vision audacieuse, faire en sorte qu'un million de familles africaines puissent vivre sans craindre les explosions de gaz et les défis quotidiens de l'accès à l'eau. Principale plateforme offrant un accès fiable et pratique aux services publics, Gobega se consacre en particulier sur les femmes, elles qui au quotidien gèrent les ménages. La plateforme dessert des milliers de foyers au Kenya, livrant les services essentiels comme le gaz et l'eau directement à leur porte. L'impact va au-delà de la commodité et de la tranquillité d'esprit pour les familles issues de la classe moyenne qui vivent désormais sans crainte. Gobega a permis la création de 30 emplois dont 85% sont occupés par des femmes.
Merci Denise Epoté.
Denise Epoté et ses têtes d'affiche avec Mathis Limano. Michel Mangenot est cette semaine l'invité de Juliette Gerbrandt dans le Livre International. Il a co-dirigé avec Fabrice Lara un ouvrage intitulé « Jacques Delors, les paradoxes d'un homme d'État européen ». Jacques Delors qui a joué un rôle majeur dans la construction de l'Union européenne. Ce vendredi 9 mai, on célébrait d'ailleurs la journée de l'Europe et les 75 ans de la déclaration Schuman qui avait lui, en 1950, posé la première pierre. Entretien.
Michel Mangenot, bonjour. Jacques Delors a été 10 ans président de la Commission européenne. 10 ans qui correspondent à une formidable accélération de la construction de l'édifice européen. Rappelez-nous ce qu'on lui doit.
La postérité de Jacques Delors en matière de construction européenne est importante. D'abord parce que, selon son expression même, l'acte unique rédigé en 1985 et entré en vigueur en 1986 est son traité préféré. Parce qu'il introduit le fameux objectif d'achèvement du marché intérieur au 1er janvier 1993, c'est-à-dire l'Europe sans frontières, et qui a été un succès en partie possible grâce au soutien des grands dirigeants politiques de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand qui a contribué à sa nomination, mais également, et c'est moins connu, plus curieusement, le soutien en tout cas pendant les 2 premières années de Margaret Thatcher. Enfin, dernier soutien de poids, c'est évidemment le chancelier allemand Helmut Kohl.
Il a été le premier à introduire l'idée de monnaie unique, d'une ébauche de politique de défense et de politique étrangère commune. Alors aujourd'hui, ça résonne particulièrement à nos oreilles.
En fait, dès 1984, il avait 3 idées. La monnaie, l'ancêtre de l'euro, qu'on appelait l'écu à l'époque, la défense et l'acte unique, c'est-à-dire le marché. Le marché étant réalisé, il a considéré que la monnaie devenait la question prioritaire. Et donc, il va réunir le fameux comité de l'or, composé des gouverneurs des banques centrales européennes, pour aboutir au traité de Maastricht, à la signature, la négociation de l'union économique et monétaire qui donnera naissance à l'euro. Concernant la défense, comme on le montre un peu dans l'ouvrage, les réactions vont être plus difficiles, en particulier de François Mitterrand et des Britanniques, qui vont considérer que la Commission européenne outrepasse un peu ses compétences. Ça rejoint un débat très actuel aujourd'hui sur la présidence von der Leyen et les compétences en matière de défense dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mais il y a bien effectivement un projet de l'or, d'une politique étrangère et de sécurité, mais une politique étrangère et de sécurité et de défense beaucoup plus intégrée que celle qui va aboutir au traité de Maastricht, en particulier parce que là, il va connaître sa première véritable divergence avec François Mitterrand, Jacques Attali, son conseiller, mais également le Quai d'Orsay.
Et pour revenir au marché unique, on lui a reproché un marché unique, libre circulation des capitaux, des marchandises, des hommes, auquel il manquait peut-être un volet social. Pourtant, Jacques Delors, c'est l'homme aussi social, l'homme de gauche.
C'est un peu un des paradoxes qui forme le sous-titre de cet ouvrage. Sans doute le paradoxe le plus important, c'est que Jacques Delors a été perçu par une partie importante de la gauche dont il provient, trop libéral, voire néolibéral. Mais, comme on essaie de le montrer aussi dans l'ouvrage, Jacques Delors est l'homme de la relance du dialogue social. Alors aujourd'hui, le dialogue social est moribond hein, depuis une dizaine d'années. Mais, pour reprendre aussi une de ses expressions, c'était son rêve absolu. Il y a aujourd'hui un accord qui est la directive travail à durée déterminée, qui limite l'abus par les employeurs de contrats à durée déterminée. C'est un texte négocié sous Jacques Delors.
Dans l'introduction, vous dites que l'Union européenne est en crise de leadership. Comment est-ce que vous comparez la présidence actuelle de la Commission avec Ursula von der Leyen et celle de Jacques Delors ?
Alors effectivement, on est dans deux Europes très différentes. Quand Jacques Delors préside la Commission européenne de 85 à 95, il travaille avec les présidents et les premiers ministres des pays de la communauté. Désormais, depuis 1er novembre 2009, il y a un président permanent du Conseil de l'Union européenne, aujourd'hui Antonio Costa. Ça a beaucoup changé la donne parce que la relation que le président de la Commission entretient avec ce président est soit plutôt conciliatrice, comme ça a été le cas avec Herman Van Rompuy et Jean-Claude Juncker, mais on le sait, entre Charles Michel et Ursula von der Leyen, les relations étaient extrêmement tendues et difficiles qui ont abouti à ce fameux sofagate à Ankara. De ce point de vue-là, l'Europe de Jacques Delors était une Europe dans laquelle ce type de conflit ne pouvait pas exister, puisqu'il n'y avait pas de président permanent du Conseil. Donc le leadership, en quelque sorte, de l'Europe était plus simple à incarner, même si aujourd'hui, les relations entre Antonio Costa et Ursula von der Leyen, dans son deuxième mandat, sont beaucoup plus apaisées que celles qu'elle avait pu avoir avec le président Charles Michel.
Merci Michel Mangenot. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Fabrice Lara, Jacques Delors, les paradoxes d'un homme d'État européen. C'est à la documentation française dans la collection INSP Recherche.
Michel Mangenot avec Juliette Gerbrandt. Le livre Inter, c'est également sur RFI.fr. À 5h55 ici à Paris, la fin de cette demi-heure avec une autre exposition, cette fois en France, à la Cinémathèque de Paris. Elle est consacrée à l'univers de Wes Anderson, le réalisateur américain installé en France, grand habitué du Festival de Cannes également. Son dernier long métrage, Phoenician Scheme, est d'ailleurs en lice cette année pour la Palme d'Or. Une exposition qui permet de comprendre encore mieux son travail. Sophie Torlotin est allée y faire un tour.
Attention, c'est parti.
Wes Anderson a tout gardé, ou presque, de ses carnets préparatoires, objets, costumes, éléments de décor, depuis son premier long métrage Bottle Rocket en 1994.
On sait à quel point son cinéma est très très pensé en amont, c'est le contraire du cinéaste d'improvisation.
Mathieu Orléans, le commissaire de l'exposition.
Ça on le voit très bien avec les storyboards, et on en a un dès Bottle Rocket, son premier film, donc un storyboard qui montre que finalement tout le film était dans sa tête avant même qu'il arrive sur un plateau, et ça sera d'autant plus le cas de films où il doit recréer tous les décors, parce que, comme le Grand Budapest, ça se passe dans l'Europe centrale des années 30, donc on est obligé de tout anticiper.
Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy ?
Qui ne le souhaite pas ? Au Grand Budapest, monsieur.
The Grand Budapest Hotel, un film de 2014, est un bon exemple du style Wes Anderson. Une troupe éblouissante d'acteurs comme William Dafoe, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Jason Schwartzman ou Adrien Brody. Des histoires qui s'enchassent, une atmosphère loufoque, une multitude de détails. Un univers comme une maison de poupées à l'image de la maquette de l'hôtel présentée dans l'exposition.
En fait, ils ne pouvaient pas recréer un hôtel à cette envergure. Ils ont transformé un centre commercial désaffecté en Allemagne pour en faire l'intérieur, mais il n'y avait pas de quoi faire l'extérieur. Et finalement, ils ont assumé l'artifice de faire une maquette qui servirait d'extérieur et qu'on voit ici. Bizarrement, ils ne tournent pas beaucoup en studio. Et le reste du temps, ils préfèrent aller sur le terrain, en Inde, dans une île à Rhode Island. Et il va recréer un monde, mais à partir de l'existence. C'est un peu tous les paradoxes de Wes Anderson. Plutôt que de faire un cinéma complètement de studio et complètement artificiel, il crée l'artifice à l'intérieur du monde réel. Et donc c'est toujours cette ambiguïté entre comédie, mélancolie, entre intérieur, extérieur. Et là aussi, entre vrai et faux, il y a toujours les deux qui existent.
Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou. Un groupe de spécialistes en plongée sous-marine.
Cette exposition permet donc de pénétrer film par film dans la fabrique d'une œuvre foisonnante, Mathieu Orléans.
C'est plus que jamais l'occasion de voir non seulement des objets cultes, je ne pensais pas à la tenue de Zizou dans La Vie Aquatique, ça, les gens l'ont repéré, les gens s'en souviennent.
Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain.
Mais aussi beaucoup de choses qui passent presque inaperçues dans le plan, qui vont très vite. Et l'exposition, c'est comme un arrêt sur image sur tous ces petits trésors fabriqués par des gens qui ont mis beaucoup d'eux.
Ce qui est encore le cas avec le nouveau long métrage de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, qui sortira en salle juste après le Festival de Cannes.
Une exposition à découvrir jusqu'au 27 juillet prochain à la Cinémathèque française à Paris. 5h59. ici justement à Paris. Merci à Laurent Hérault à la réalisation, à Vincent Dublanche à la rédaction en chef de cette demi-heure. L'actualité internationale revient dans une minute sur RFI. Ce sera le journal avec Marion Cazanove.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Wolf.
Depuis plus d'une décennie, cette MC porte le flambeau du hip-hop sud-africain. Jürgen Blackrock est dans BPM La Rencontre. I'm into secret codes, Major Tom back to
ground control. Could be a holographic globe, silent planet that turns slow. Bonne pulsation du monde avec Hortense Wolf. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
Au Sénégal, 5 anciens ministres soupçonnés de détournement de fonds et de corruption, bientôt jugés par la Haute Cour de Justice. Une procédure rare dans le pays. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Qu'en pensez-vous ?
Appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70.
Namoury Dosso, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU.
RFI.